Monsieur le maire, frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en cette église d'Esquiéze pour honorer notre saint patron, Nicolas, saint Nicolas que nous appelons de Myre, ou encore saint Nicolas de Bari. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Nicolas est né à Patara en l'an 270 dans la province romaine de Lycie, en Pamphylie, actuellement en Turquie. Nicolas naît dans une famille profondément chrétienne. Son oncle, d'ailleurs, est évêque de Myre. Dans son enfance, on se souvient de deux traits essentiels. Alors qu'il a été présenté au baptême, l'enfant s'est redressé comme pour manifester la dignité de Dieu, de ce Dieu dont il renaissait alors, et de l'eau et de l'Esprit Saint. Sa famille profondément chrétienne marquait particulièrement les temps de pénitence et déjà enfant, la vocation du moine Nicolas était là. Il insistait lui aussi pour jeûner et offrir des sacrifices dans son enfance pour la conversion des pécheurs. Ses parents vont mourir de la peste et voilà que sa vocation sacerdotale est née, non seulement dans sa famille chrétienne, tout autant aux côtés de son oncle, l'évêque de la ville de Myre. Le voilà donc ordonné prêtre par son oncle et deviendra alors abbé d'un monastère non loin de Myre, de l'abbaye de Sion. Le voilà qui croit en sainteté au milieu de cette vie régulière, faite de prières, faite d'aumônes, faite de jeûnes. Son oncle venant à mourir, quelque temps après, son successeur tout autant, et c'est alors, vox populi, vox dei, que le peuple de Myre décida d'aller chercher Nicolas, réputé pour sa grande sainteté, et d'en faire l'évêque de leur cité. À l'époque, on ne demandait pas au candidat s'il était d'accord ou pas. Arrivé devant l'église, on lui met la mitre, on l'acclame, voilà le nouvel évêque de cette cité. Ce sera un évêque très attentif aux besoins de son peuple, quelqu'un qui aura la saine doctrine et tout autant l'amour pour les pauvres. Il est fait évêque en l'an 300 et c'est en l'an 310 que Nicolas, évêque de Myre, se rend au concile de Nicée. Au concile de Nicée, un des conciles les plus importants, nous en avons hérité le credo que nous récitons à chaque messe. Eh bien là, Nicolas va se montrer à la fois l'homme de doctrine, mais tout autant un homme habité par le zèle de Dieu, tel le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Que s'est-il passé? Eh bien voilà que dans ce concile de Nicée, Arius, qui avait ses entrées chez l'empereur, avait réussi à faire convoquer un concile pour entériner ses idées à lui, affirmant que notre Seigneur Jésus le Christ n'était pas Dieu. Voilà que les évêques réunis condamnent fortement cette hérésie, et voilà que même Arius en ressort complètement déposé. Nicolas a exposé le mystère de l'incarnation et celui de la Sainte Trinité avec beaucoup de brio, un tel amour zélé de Dieu qu'il finit même par gifler Arius. Devant un tel comportement, les évêques du concile demandent à Nicolas de se retirer et ne participera pas au vote final. Vous voyez saint Nicolas, l'homme très attaché à l'amour de Dieu, à défendre le dogme et qui n'a pas eu peur de remettre son frère qui partait dans l'hérésie dans le droit chemin, même avec un peu de force. Voilà que en 310, 10 ans après ce concile, l'une des dernières et grandes persécutions des chrétiens a lieu dans l'Empire romain. Ce sera bientôt, en 313, l'édit de Milan, l'édit de tolérance qui accepte la communauté chrétienne au sein de l'Empire. En 310, voilà que beaucoup de chrétiens sont martyrisés, les évêques arrêtés, et voilà que saint Nicolas, comme nous le rapporte saint Ambroise, évêque de Milan à cette époque, tout comme saint Basile de Césarée, sera non seulement fait prisonnier, mais tout autant torturé. Il ne sera sauvé de la mort que par un dessein providentiel, celui de l'avènement sur le trône de l'Empire de l'empereur Constantin. Constantin est le fils de sainte Hélène, le premier empereur qui officiellement sera chrétien. Voilà donc, frères et sœurs, que notre saint Nicolas, en cette ville de Myre, a eu quelques hauts faits que l'on rapporte dans son histoire. Tout d'abord, si nous contemplons le retable de notre chère église d'Esquiaise, nous voyons le Saint-Évêque entouré de deux jeunes filles tenant dans leurs mains une bourse. Effectivement, saint Nicolas avait trois voisines de son évêché, dont le père, ruiné, décida de les conduire sur le chemin de la prostitution pour que celle-ci leur apporte un peu d'argent. Horrifié, non seulement le grand évêque reprit en main le père, mais donna une bourse à ses trois jeunes filles, dont deux sont représentées en ce retable, entourant le saint évêque. Parce que notre cher évêque s'est montré ainsi clément et a doté ses jeunes filles, voilà pourquoi saint Nicolas est le patron des notaires, de tous ceux qui doivent veiller à la bonne distribution et en cas de ruine et à la mort des différents parents. Saint Nicolas est un homme profondément de justice, et si saint Yves est le patron des avocats, partout en France, c'est à une exception près, celle du barreau de Paris, qui a vu en saint Nicolas la figure de l'homme juste qui remet l'équité. En voilà pourquoi il est donc le patron des avocats du barreau de Paris. Un autre fait important, une famine sévit grandement dans sa ville. Saint Nicolas n'a pas peur d'aller dans le port voisin et d'essayer de convaincre un certain nombre de commerçants de donner ce blé qu'ils transportent dans leur cargaison pour ne pas que son peuple meure de faim, leur promettant le salut dans leur traversée. Et bien voilà que on donne du blé à l'évêque pour nourrir son peuple, et l'on se rend compte à l'arrivée des navires qu'il ne manque pas un grain de blé dans les cargaisons. La réputation de Nicolas croît en raison de sa sainteté, en raison de son équité, en raison de son talent de prédicateur, en raison de sa saine doctrine, comme de ce secours qu'il a toujours manifesté vis-à-vis des plus pauvres. Enfin arrive le dernier et peut-être plus célèbre épisode de la vie de saint Nicolas. Trois officiers de l'empereur Constantin, montés donc sur le trône de l'Empire romain, se rendent en Phrygie pour une mission impériale. Mais voilà que quelques courtisans zélés, comme il y en a à toutes les époques, décident d'accuser ces trois émissaires impériaux, de vouloir renverser Constantin lui-même. Alors on leur met tous les péchés du monde possibles, vous connaissez les tribunaux médiatiques de notre époque, et donc on veut les condamner à mort. De son vivant, saint Nicolas apparaît dans songe auprès de l'empereur Constantin comme de ses trois prisonniers pour ne pas qu'il désespère. Et voilà encore l'homme de justice et d'équité qui a fait triompher le mal et qui a pu ainsi sauver ces trois hommes. Lorsque son culte arrive en France, parce que le symbole de l'innocence était celui des enfants, en raison notamment du massacre des saints innocents après la naissance de notre Seigneur Jésus le Christ, voilà que dans la tradition, on a fait de ces trois officiers sauvés par saint Nicolas trois petits enfants. Saint Nicolas meurt un 6 décembre, au jour de sa fête, de l'an 343 à 73 ans, après avoir mené une vie d'apôtre infatigable. Que s'est-il passé à sa mort ? Voilà que son corps reposa dans une magnifique église que l'on a appelée alors Saint-Nicolas de Myre jusqu'en l'an 1087. Un culte immense s'est développé et d'abondants miracles se sont passés au contact de sa tombe. D'ailleurs, on a vite compris qu'il se passait quelque chose en cette tombe et en ouvrant le tombeau, on a vu et on a senti surtout cette huile abondante qui remplissait ce cercueil et qui, en étant ainsi récoltée, apportait réconfort et salut aux malades. Ce sont ces petites fioles que l'on aimait à distribuer et porter au contact des malades, comme nous pouvons le faire avec l'eau de la grotte de Lourdes, qui sont figurées en notre rétable. Sous Saint-Nicolas se trouvent des petits anges tenant chacun dans leurs mains les fioles qui permettaient d'apporter la protection et l'intercession de Saint-Nicolas dans l'épreuve de la maladie. Ce grand culte de Saint-Nicolas faisait que des pèlerins affluaient de partout pendant l'Empire pour se rendre dans la ville de Myre. Mais voilà que les raids des Sarrasins, qui commençaient déjà à faire de la, ce qu'on appellerait Turquie chrétienne d'aujourd'hui, la Turquie musulmane que nous connaissons, venaient faire des rafles et massacrer les chrétiens. Raison pour laquelle, après la défaite de l'armée byzantine en 1071, qui perdit alors l'Anatolie, la laissant aux mains des Turcs, eh bien, on est venu d'Italie récupérer le corps du Saint-Évêque pour le conduire à Bari. Saint-Nicolas est tellement important dans la tradition de l'Église que, comme Saint-Jean-Baptiste, patron de Serres, comme Saint-Benoît, il a à la fois une fête l'hiver, le 6 décembre, au jour de sa mort, mais tout autant une fête que l'on appelle celle de la Saint-Nicolas d'été, fêtée le 6 mai, parce que c'est le 6 mai 1087 que ses reliques arrivèrent à la pointe sud de l'Italie, dans la cité de Bari. Pourquoi à Bari ? Parce que Bari était ce port de commerce qui commerçait beaucoup avec la partie orientale de l'Empire, et c'est de là que le culte de Saint-Nicolas est arrivé en notre contrée occidentale. Il devint alors le saint patron de notre Lorraine, parce que lorsqu'on transporta le corps de Saint-Nicolas à Bari, le chevalier Aubert de Varengéville rapporta un doigt de Saint-Nicolas vénéré en l'église Saint-Nicolas du Port. Vous l'aurez compris, la vie de Saint-Nicolas est une vie profondément édifiante. Homme de prière, moine retiré en son monastère, choisi pour être évêque, défenseur de la vérité, défenseur de la justice, s'efforçant de nourrir les pauvres de sa cité comme de défendre la sainte doctrine, toujours prompt à visiter les malades et à les guérir, même après être paru face à Dieu, nous le supplions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour tous nos vivants, particulièrement les malades, tout comme pour chacun de nos fidèles défunts, puisse le Saint-Évêque de Myre, le Saint-Évêque reposant aujourd'hui à Bari, nous bénir du haut du ciel, ainsi soit-il.